Alors, moi, je travaille sur le Belize. Donc, c'est un petit pays en Amérique centrale. Je suis doctorante en sociologie à l'URMIS, ici à l'Université de Nice. Et je suis à l'étape d'analyse de mes données. J'ai passé un an, l'année dernière, un an sur mon terrain. Et j'utilise, en fait, enfin, je profite de cette communication pour tenter pour orienter des pistes de recherche, des pistes d'analyse, pardon, sur les données que je suis en train de traiter. Donc du coup, ma communication va être assez descriptive, mais pour arriver en fait pour partager mes questionnements, descriptive, oui, pour partager mes questionnements de recherche maintenant. Et voilà. Donc le Belize, c'est en Amérique centrale. Donc vous voyez, l'Amérique, c'est un tout petit pays qui est en Amérique centrale. Ici, là, vous voyez mieux l'Amérique centrale. La particularité de ce petit bout de territoire, c'est que il est à la frontière entre la Caraïbe anglophone surtout, et l'Amérique centrale qui est hispanophone. Donc c'est un territoire qui s'est construit par la colonisation britannique, qui est indépendant depuis 1981, donc depuis très récemment, et qui en fait a une situation culturelle un peu entre ces deux espaces. Voilà, caribéen, anglophone, surtout créolophone, donc un créole sur base anglaise et espagnole. La population belizienne s'est formée par des migrations forcées comme l'esclavage par exemple, mais aussi par l'arrivée de travailleurs asiatiques et d'Inde pendant la période coloniale, mais aussi par de nombreuses migrations des pays voisins et qui continuent encore aujourd'hui après l'indépendance. Et tout ça sur un petit territoire qui est le moins densément peuplé d'Amérique centrale. Et vous avez, au niveau des langues et des cultures, vous avez compris, il y a la majorité de la population qui va parler anglais et créole, donc un créole sur base anglaise, et une majorité aussi de la population qui parle aussi espagnol. Cette dualité, elle se superpose à un plurilinguisme de langue minoritaire donc ça donne une situation très complexe et sur ce petit territoire. Et je vous montre aussi la carte du Belize ici parce que je voudrais que vous ayez en tête pendant la communication donc on est vraiment sur la Caraïbe et qu'on a des frontières entre des frontières sud et frontières ouest avec le Guatemala. Donc ici, on a une situation où il y a encore beaucoup de... Il y a des conflits frontaliers qui se sont formés depuis la période coloniale entre les pouvoirs espagnols et le pouvoir britannique, et qui continuent aujourd'hui. Donc des conflits très forts. Et donc aussi, on a une frontière avec le Mexique. Donc c'est vraiment un territoire qui est isolé dans ce petit espace et qui est vraiment particulier. Voilà, donc pour introduire le système éducatif du Belize, c'est un système qui repose sur le partenariat entre l'État et les différentes églises. C'est un système qui s'est formé à la période coloniale et qui continue aujourd'hui. Alors il y a eu des modifications, des arrangements, etc., mais ça continue encore aujourd'hui. Le principe, c'est que l'État finance les écoles, les infrastructures. Aujourd'hui, il fait les programmes. À la période coloniale, il ne faisait pas vraiment les programmes. Et les églises, qui sont des églises chrétiennes, pour la quasi-majorité, quasi-totalité, pardon, mais qui sont différentes églises, donc catholiques, anglicanes, protestantes, enfin évangélistes, il y a énormément d'églises. Les églises, elles, organisent les écoles et organisent la vie scolaire. D'accord ? Donc c'est ce partenariat État-Église qui est une particularité du Belize. Donc la tâche éducative, et qui fait partie de la politique éducative de l'école, a aussi une double mission entre État et Église aussi, qui est d'un côté inclure l'amour, la dévotion et le respect du pays et des symboles nationaux, mais aussi d'inculquer les valeurs et les pratiques chrétiennes, même dans les écoles gouvernementales où l'Église n'est pas forcément impliquée dans l'organisation. Ça veut dire que la pratique, le religieux est vraiment partout dans l'éducation. Donc on accomplit cette mission par des célébrations de fêtes nationales, comme vous avez sur les photos. donc ça c'est tous les ans. Quotidiennement, on rythme les temps de classe par des prières, des assemblées hebdomadaires, où toute l'école se réunit pour prêter serment à la nation, pour chanter l'hymne national et pour prier pour le pays. Donc c'est vraiment très présent, ça rythme les temps de classe. Je vais juste faire quelques petits commentaires sur le drapeau que vous voyez ici avec les symboles. Le drapeau a été instauré après l'indépendance en 1981 et il rappelle l'histoire de la colonisation, comment cette société s'est construite. Donc c'est une société qui s'est construite par l'extraction forestière. Donc on a sur le drapeau l'arbre d'acajou qui est un arbre de luxe qui a justifié la colonisation, et donc par les populations noires qui rappellent l'esclavage, et aussi par les populations, on dit brown, donc non blanches, mais ça rappelle un peu la dualité, la dualité culturelle dont je vous parlais tout à l'heure, qui est dominante au Belize. Donc on voit que dans ce drapeau, par exemple, on n'a pas la présence des femmes et on n'a pas la présence de tous les groupes ethniques qui existent sur ce petit territoire. Maintenant que j'ai présenté le contexte de mon terrain, je voudrais vous raconter une anecdote en fait pour introduire la réflexion que je voudrais développer ici. Un de mes objets de recherche dans l'éducation, c'est une matière en particulier qui s'appelle les social studies. C'est une matière qui rassemble l'histoire, la géographie, la civique, l'économie. Donc je me trouvais en observation dans une classe de primaire, de première section de primaire, dans une école rurale. Et l'enjeu de cette classe était d'enseigner aux enfants que les Mayas, un groupe indigène, indigenous on dit en anglais, c'est un des groupes du Belize. Donc l'idée c'était d'enseigner aux enfants qui étaient présents que les Mayas au Belize mangent du maïs. Et qu'avec le maïs, on peut préparer tout un tas de différents plats, comme par exemple les tamales ou encore des tortillas. Et cet enseignement répond directement à une directive du programme scolaire pour cette classe, où on demande aux enseignants de comparer et de contraster différents types de nourriture, de vêtements, de musique, de danse, associés à chaque groupe ethnique du Belize. Donc la maîtresse, après avoir dessiné un gros épi de maïs au tableau, elle demande aux enfants comme ça, qu'est-ce que mangent les Mayas et qui est fait à partir de maïs ? Corn, en anglais. Donc là, il y a plusieurs enfants qui lèvent la main et tout. Moi, je sais. Et il y a une petite fille qui répond et qui dit, ils mangent des pop-corn. Et donc là, la maîtresse, elle dit, oui, ils mangent des pop-corn, mais ils mangent autre chose aussi. Qu'est-ce qu'on fait à partir du maïs ? Et là, il y a un autre enfant qui lève la main et qui dit, ils mangent des cornflakes. Donc là, on est vraiment en l'équivalent du CP, disons. Et la maîtresse, elle dit, oui, c'est vrai, ils mangent des cornflakes, ils mangent des pop-corn, mais ils mangent aussi des tamales et des tortillas. Donc c'est un plat, en fait, qui est consommé communément au Belize, ces deux plats, des tamales et des tortillas. Mais on les mange aussi au Mexique et on les prépare en Amérique centrale et jusqu'en Amérique du Sud aussi. Donc ce sont au Belize, ils sont assimilés aux Mayas, même s'ils sont préparés et consommés par l'ensemble de la population. Toutes les personnes qui vont s'identifier à d'autres groupes vont aussi consommer ou préparer ces produits-là. Donc dans cette anecdote, ce qui est intéressant, c'est pas seulement qu'on construit l'altérité des Mayas à l'école à travers le programme national, mais que la réponse des enfants dans l'acte pédagogique remet directement en question le programme national. En effet, si on prend en compte les grandes exploitations agricoles de maïs qui existent au Belize, on voit que le maïs sert à la production industrielle des pop-corn, des cornflakes, des Doritos et tout un tas de produits industriels. Donc dans la réponse des enfants, elle n'est pas si éloignée de la réalité. En tout cas, elle est moins éloignée que les connaissances stéréotypées que construit le programme national dans l'esprit des enfants. Les social studies, cette matière que j'étudie, est une matière qui veut permettre aux enfants la conscience de soi, des autres, de l'espace, de l'environnement, de la structure étatique. Elle englobe la géographie, les ressources naturelles et économiques, les cultures et la société, le fonctionnement du gouvernement et l'histoire du pays. Cette matière, elle est très importante. Elle est présente de l'école primaire et l'école secondaire. Et elle est testée dans tous les examens nationaux. Donc, selon le ministre de l'Éducation, elle est censée être plus importante que les mathématiques et l'anglais, car elle permet de comprendre qui nous sommes en tant que Belizien. Donc, cette matière, elle contribue à construire ce que Géraldine Bozec appelle le nationalisme cognitif, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances que l'on croit propres à la nation, qui, par le discours et les pratiques, sont devenues des spécificités naturalisées propres à la nation. Donc, à partir de là, je voudrais vous montrer quelques dessins que j'ai collectés lors de mon terrain. J'ai fait des activités dans des classes de dernière section de primaire où nous parlions d'histoire, on parlait de leur pays, le Belize, où on a fait des activités, des jeux autour de l'histoire, autour de leurs activités patriotiques. Donc on a fait des discussions autour de tout ce qu'ils, toutes les pratiques qu'ils ont dans cette classe. Et je leur demandais en fait à la fin de la session, je leur demandais de me faire un dessin ou de faire un texte où qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils aiment le plus de leur pays et qu'est-ce qu'ils peuvent partager avec moi. J'essayais d'ouvrir au maximum la question et j'essayais aussi d'appeler le. Enfin, j'ai demandé qu'est-ce qu'ils aiment le plus parce qu'il y avait toute cette idée de l'imaginaire national, enfin cet amour à la nation, mais aussi ce qu'ils aiment faire. En fait, je m'intéressais aussi à leurs pratiques et etc. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai collecté 120 dessins, mais je vous en montrer que 7. Et la question en fait, c'est vraiment c'est ce que je vous disais au départ. Je cherche une piste d'analyse de toutes les données que j'ai collectées. Donc il y a différents types de dessins. D'abord, il y a des dessins qui vont reproduire à l'exactitude les discours nationaux. Celui-ci, par exemple, reproduit très très bien le discours qu'il y a du programme, qu'il y a dans le programme sur l'histoire de la nation ou sur qu'est-ce que le Belize. On a toujours, je retrouve dans beaucoup de dessins la mer à droite. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure de bien regarder la carte. Donc le Belize qui est adossé à la mer des Caraïbes et le Belize qui est représenté comme une maison, donc fermée avec un drapeau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ici en fait les quelques événements historiques qui sont dans le programme, où c'est toujours la bataille entre des perdants et des gagnants. Donc forcément, les Béliziens sont gagnants. Et la petite fille rappelle ici que Belize a gagné son indépendance. Donc ça, elle a très bien intégré que l'indépendance avait été gagnée entre une bataille, même s'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas eu de bataille historique, enfin réelle, mais dans le discours, il y a ça qui est repris. Et tout ça sur un fond d'une forêt de l'arbre d'acajou qui rappelle la colonisation. Donc c'est toute l'histoire qui se construit sur un fond colonial. Donc ça, c'est vraiment, ça reprend très très bien. Elle a très bien intégré le discours national. On a aussi un des objectifs de l'école, une des missions de l'école a une mission économique, donc de cibler l'économie, enfin l'industrie plus importante du Belize aujourd'hui, c'est le tourisme, et c'est quelque chose qui se retrouve aussi beaucoup dans le programme. On voit en fait, le Belize vend ses richesses naturelles et ses richesses culturelles. Et la petite fille, là, donc, elle montre que son pays, c'est la barrière du Rif, enfin la barrière de corail, donc, qui est la deuxième plus importante dans le monde, donc qui est très, très, très prisée. Un atoll aussi, la mer, les montagnes. Et les cultures qui sont aussi, par l'industrie du tourisme, qui sont aussi vendues comme très, très stéréotypées encore. Et la petite fille me dit, là j'ai représenté les Mayas, les Garifuna et les Chinois. Et elle se dessine au centre de tout ça. Et en discutant avec elle, elle a vraiment un discours où elle altérise les autres. Et elle me dit, non, moi je ne suis pas dans ces groupes-là, moi je suis au milieu là. Donc là encore, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on retrouve dans le programme. Il y a aussi Ça, c'est un autre. Alors, dans les écoles du Belize, alors les écoles sont toutes sous le ministère de l'Éducation, ont toutes le même programme national, mais différentes écoles. Enfin, il y a quelques écoles qui basent leur éducation sur la reconnaissance de, enfin, la construction de l'ethnicité. Enfin, et là, je suis dans une école qui base l'éducation sur la construction de la culture Garifuna et donc une minorité au Belize. On retrouve dans ce dessin la même frange à droite, toujours comme sur la mer des Caraïbes. Ici, le Belize est représenté plus comme, enfin, sur un arbre. Le drapeau est planté sur un arbre et il a des une orange et une ananas qui sont accrochés sur l'arbre. Ce qui rappelle la deuxième industrie plus forte du Belize, qui est l'agriculture, notamment la production d'oranges et d'ananas. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que ce groupe minoritaire reproduit du coup l'altérité qui est très présente, l'altérité des Mayas qui est très présente dans les programmes nationaux. Et il marque que, il représente en fait que les Mayas sont arrivés au Belize. Et là, en fait, cet enfant ici, il est en train de reproduire le discours du programme, un peu national, mais surtout le discours de son école, qui a une autre politique éducative, qui est aussi l'inculcation de la culture Garifuna. C'est une éducation où on va donner plus d'importance au rapport à la terre, par exemple, d'où la représentation du Belize sur un arbre. Enfin, comme un arbre, mais aussi il détrône, si on peut dire, si les premiers habitants du Belize étaient les autochtones ou les indigènes, je ne sais pas jamais quel mot utiliser. Ici, ce groupe-là essaye de détrôner l'autre groupe en disant les Mayas sont arrivés aussi au Belize. Donc il y a un peu ce conflit d'idées au Belize pour savoir qui est arrivé en premier sur le territoire. Ce que j'ai retrouvé aussi beaucoup, ça c'est aussi dans l'école Garifuna, où du coup il y a vraiment la double nationalité qui est inculquée, d'un côté parce qu'à cause du programme national justement, et à côté de la politique de cette école. Et cet enfant dit qu'il aime le Belize parce qu'on est tous différents. Donc c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans les écoles rurales, disons. Ils mettent avant tout leurs différences. On est Bélizien, mais ça veut dire qu'on est tous, enfin, on est différents. Alors qu'à la capitale, on gomme, les différences sont plutôt gommées. Et là, il me dit que il aime l'hymne national parce qu'il explique les différents types de drums, de rames, de barques. En fait, il est en train d'expliquer par son discours, il explique l'hymne national avec par l'hymne Garifuna. En fait, il fait une confusion, je ne sais pas si c'est une confusion, une imbrication entre les deux, mais du coup, il explique l'un avec l'autre, et c'est... ça donne des choses vraiment très intéressantes. J'arrive à mes conclusions, mais... je reviendrai à ça avec ma conclusion. J'ai aussi ce type de choses là où, par exemple, les enfants cette petite fille reprend une phrase nationale. « Les gens et les couleurs du Belize font de moi une Belizienne et ma patrie. » Donc la différence qui est mise en avant aussi, mais c'est représenté sur comme une maison encore, ou peut-être son école, sur deux étages avec beaucoup de fenêtres, des portes. Et elle se représente au milieu d'autres enfants, des garçons et des filles qui jouent au football ensemble. Donc elle représente sa réalité pour parler du Belize, même si c'est chapeauté par une phrase nationaliste. Il y a aussi d'autres types de dessins comme ça où l'enfant va reprendre encore le discours sur le tourisme en représentant la mer à droite, toujours, représentant la vie sous-marine qui est vendue pour le tourisme, les pyramides mayas qui sont vendues aussi pour le tourisme, les montagnes. Il va représenter le paysage avec les animaux nationaux et il représente sa communauté avec une personne qui est en train de fumer et une autre personne qui tient une arme à la main. Donc là, cet enfant, il fait encore une fois des imbrications entre des discours nationaux, le discours sur le tourisme, etc., et sa propre réalité avec le terrain de foot, etc. Donc ça, c'est sa façon de représenter le Belize. Et enfin, c'est le dernier dessin que je voudrais vous montrer. C'est ici, on est dans une école où les enfants, une école où l'espagnol est la dominante de la communauté. Donc, le professeur parle toujours anglais parce que c'est la langue nationale, enfin c'est la seule langue officielle et c'est la langue d'instruction. Tous les examens sont en anglais. Mais dans toutes les écoles au Belize, on a vraiment une situation sociolinguistique différente, mais toujours avec l'anglais qui coexiste avec une autre langue qui est dominante dans la communauté. Ici, c'est l'espagnol. Cette petite fille m'a été présentée comme la seule créole de la classe, elle, quand elle représente son pays, donc elle représente encore une fois, ici on revoit la diversité, on est tous différents en Belize, même si elle les dessine tous pareils, en bleu comme son uniforme, elle décide, elle, d'écrire en créole. Alors dans la salle des classes, c'est toujours l'espagnol avec l'anglais. Les professeurs font toujours des switches, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Enfin, c'est un peu la particularité des plurilinguismes, c'est que les langues, elles coexistent toujours. Et elle montre sa différence, en fait, dans une classe où elle est minoritaire. Donc, et elle va dire que les différents types qu'elle a dessiné les différents types de personnes, elle les représente comme venant de tous les pays, qui viennent un peu partout dans le monde et qui ont des droits différents. Et je suis fière moi-même parce que je suis une Bélisienne et nous, les Bélisiens, on aime notre pays et on est fiers de nos cultures. Donc là, on a tous des droits différents. Je me pose la question aussi, parce qu'il n'y a pas de droits différents. Enfin, tout le monde a les mêmes droits. Mais il y a quand même, je me pose la question sur la diversité, en fait, qui est tellement mise en avant. Est-ce qu'elle fait une confusion ou pas sur tout le monde a des droits, enfin on a tous des droits différents, ou je m'avance pas dans l'interprétation, mais voilà. Donc pour conclure, en fait, ma communication, c'est que on voit que certains enfants reproduisent avec exactitude les discours nationaux, mais que ceux-ci sont une minorité, donc ceux qui représentent vraiment à l'exactitude le programme et les discours. Et la plupart des enfants se réapproprient les connaissances suivant sa propre expérience, suivant l'engagement des enseignants et aussi suivant son univers familial et social en dehors de l'école. Avec ça, je voudrais pointer du doigt l'importance des représentations des élèves dans l'étude de la construction nationale à l'école. L'imaginaire national étant aussi cet univers ou ces univers construits par les individus. Donc tout à l'heure, Pierre Guidi, vous avez rappelé la définition de la communauté imaginée. J'ai fini. Et en fait, donc la nation, dans la communauté imaginée, c'est la nation est présente dans l'esprit des individus, même si tous les individus ne se connaissent pas. Et oui, elle est présente, mais finalement, elle est présente de manière très différente d'un individu à l'autre. Et c'est un peu la question que je me pose du coup pour analyser toutes mes données, c'est quelle place je vais donner. Quelle place je vais donner à ces réappropriations dans l'étude de l'imaginaire national.